Donc c'est un travail que j'ai fait dans le cadre de mes études à l'école du Louvre, plutôt sur un objet. Partir d'un objet, en fait, c'est un très bon moyen de cerner ce qu'est le jouet scientifique à la fin du 19e siècle. Parce que le jouet scientifique, c'est un objet à la fois très commun. Beaucoup de choses vont être qualifiées de jouets scientifiques et en même temps, c'est très mal défini. Ça touche au jeu, ça tend aussi à une simple démonstration du progrès scientifique, de l'intérêt pour la science. Et finalement, entre ces deux aspects, il y en a souvent un des deux qui prime sur l'autre. Et pour comprendre réellement ce qu'on entend par jouet scientifique, il vaut mieux partir d'un exemple. Dans la notion de jouet scientifique, il y a la notion de jouet, donc une notion ancestrale, il y a toujours eu des jouets, mais qui connaît un essor très net dans la seconde moitié du 19e siècle, avec le développement des grands magasins, des étrennes, avec des pics d'achat en décembre. Et le jouet scientifique va s'inscrire complètement dans cette logique commerciale. On peut voir sur cet extrait de catalogue du paradis des enfants de la fin du 19e, que les jouets scientifiques, donc là il n'y a que des jouets scientifiques, machines à vapeur, bateaux, locomotives, sont rassemblés certes comme une entité unique, mais sont vendus avec tout autre type de jouets. Finalement, le train jouet va osciller complètement entre cette notion d'objet scientifique, de démonstration pédagogique, et un objet que les enfants peuvent simplement regarder ou avec lequel ils peuvent s'amuser. Sur cette photographie, on voit que les enfants ne sont pas forcément très partie prenante dans l'usage du jouet. Finalement, le jouet scientifique va aussi être caractérisé par une certaine complexité qui n'est pas forcément propice au jeu. Mais il peut aussi être très manifestement utilisé comme un simple jouet, ce qui est le cas sur ce portrait où il est associé à un tambour, uniquement pour une fonction ludique. Sur ce tapis, la locomotive ne peut absolument pas fonctionner. C'est une locomotive du même type que celle que j'ai choisie comme exemple. Elles se ressemblent beaucoup, mais ce n'est pas quelque chose qui peut rouler sur un tapis. Pourtant, la locomotive, c'est finalement le jouet scientifique par excellence, à la fois parce que le train polarise déjà cet intérêt pour le progrès scientifique comme symbole un peu de la modernité, de l'espoir du progrès, de ce qu'il apporte aussi à l'industrie, et aussi parce que finalement, la locomotive, dès qu'on veut qu'elle ressemble un peu à une vraie locomotive, qu'elle ait des fonctions d'une vraie locomotive, il va falloir l'animer. Et donc, on va entrer dans l'aspect technique qui caractérise le jouet scientifique. Parce que ce qui dénote aussi du jouet scientifique, c'est sa capacité à fonctionner. Donc, quelque chose que fait cet appareil. Et on peut voir qu'il roule à la vapeur. Donc, c'est un objet technique. Un objet qui se veut donc imiter l'objet réel. Et ça, c'est une caractéristique majeure pour le jouet scientifique. C'est-à-dire que des locomotives jouets, il y en a beaucoup, il y en a en fer blanc, il y en a à ressort, il y en a en bois, qui celles-là n'ont pas doté de mécanismes forcément moteurs. Mais ce qui finalement va faire un jouet scientifique, vraiment, ça va être aussi sa volonté de ressembler à une véritable locomotive. Donc celle-ci, elle reprend des typologies réelles de la locomotive, de type 110, donc c'est-à-dire deux essieux seulement, pas de troisième essieu à l'arrière. C'est à peu près une échelle 1/20. Mais en même temps, c'est de l'à peu près, on ne va pas reprendre réellement les vraies proportions. La maison Radiguet, donc, qui produit ce type d'appareil, précise dans son catalogue en 1901 qu'il n'est pas possible, pour imiter une vraie locomotive entièrement, de reprendre exactement les proportions si on veut qu'elle fonctionne avec un réchaud à alcool comme le font ces miniatures. Mais il y a quand même une vraie imitation de la réalité. Le principe est repris, une grande cheminée, une longue caisse et une petite plateforme avec des barreaux à l'arrière depuis cette locomotive Stephenson. Petit modèle, c'est les années 1880. La locomotive Stephenson, il s'est retiré du service en 1865. Et encore, elle représente un modèle plus récent que celui qui est réellement pris pour le jouet, puisque le modèle du jouet, c'est plutôt une locomotive du tout début du 19e siècle, et la roquette de Stephenson aussi, mais qui, elle, a seulement deux essieux de roue. Mais c'est le même principe, une grande cheminée, un long corps. Il y a une imitation du réel. Qu'on peut voir donc la cheminée. Il y a des éléments qui sont fonctionnels mais qui imitent aussi le réel, comme la soupape et le sifflet. Mais le système de fonctionnement, lui, repose sur un réchaud, donc pas une vraie chaudière à charbon comme les locomotives. Donc un réchaud qui est en pente, il se situe sous le plancher de la locomotive et il vient chauffer la chaudière qui est cachée par un cache décoratif. La cheminée est factice, ce qui est, disons, une concession au fonctionnement réel plutôt que une imitation vraiment de ce que ferait une vraie locomotive. Donc ce réchaud contient un réservoir et des mèches qui permettent de chauffer sur le dessous. On voit bien les points de chauffe sur le dessous de la locomotive. La vapeur est ensuite envoyée par la tubulure en lyre dans les cylindres oscillants qui entraînent les roues. Là, on voit bien que le cylindre en position basse est relié à la roue avec une bielle et va pouvoir l'entraîner. Le système précisément fonctionne grâce à cette petite vis à ressort qui permet d'assurer une liaison libre. En fait, il y a un mouvement possible dans la fixation du cylindre, puisque le cylindre, en fait, la vapeur arrive par la lyre en position basse. La vapeur pousse le piston intérieur qui va faire pivoter la roue vers le bas. Et ensuite, quand la roue est vers le bas, elle entraîne le cylindre qui remonte et la vapeur dans le cylindre se trouve en face d'un second trou qui est un trou de sortie par lequel la vapeur s'échappe. C'est quelque chose que l'on voit bien sur le film. La vapeur est en fait évacuée par l'arrière de la locomotive et non pas par la cheminée. Donc c'est un objet qui reprend dans sa mécanique à la fois des principes réels de la locomotive et en même temps qui s'en écarte pour des raisons fonctionnelles. Tous les jouets scientifiques touchent de près ou de loin à cette ambiguïté, à la fois imiter le réel et s'en éloigner. Il faut bien voir que dans les jouets scientifiques, il y a, donc, comme je le disais, une compréhension très large de ce que ça c'est. On peut aussi bien y ranger des jouets mécaniques, qui en réalité n'ont rien de scientifique, rien de pédagogique, mais comme ils contiennent un mécanisme qui sont un peu complexes, vont être rangés dans la catégorie jouets scientifiques. Donc c'est le cas des jouets Fernand Martin, qui sont toujours des automates... mais qui n'ont rien de pédagogique ou de scientifique en elles-mêmes. Mais on peut aussi ranger des objets qui n'ont pas non plus de mécanisme, mais qui ont une vocation pédagogique. C'est le cas de cette petite locomotive de plancher, donc une version très simplifiée du modèle que je viens de présenter. Cette locomotive est actionnée avec un système de ficelles et de mouvements de toupie, de friction sur l'arrière, et qui va entraîner effectivement les roues arrière. Mais pourtant, cette locomotive, qui n'a a priori pas grand-chose à voir avec le fonctionnement réel d'une locomotive, est quand même présentée dans La Nature, donc La Nature qui est un journal qui présente normalement le progrès scientifique et qui se veut très pédagogique, démonstratif des innovations, est présentée comme un jouet scientifique, un support qui va pouvoir permettre d'enseigner aux enfants les lois de la physique, les principes de fonctionnement, alors de l'inertie, mais on reste quand même dans quelque chose de très simple, qui est d'ailleurs mis en avant par la nature, c'est-à-dire que la nature conseille d'utiliser cet objet comme support pédagogique parce qu'il est peu cher et que malgré sa simplicité, on va pouvoir dire beaucoup dessus. Ça, c'est réellement un objet que les enfants peuvent manipuler, qu'ils soient ou non scientifiques. C'est pas le cas de tous les jouets scientifiques. Il y en a qui sont beaucoup plus complexes et qui finalement, eux, tournent davantage vers l'objet technique, voire l'outil de démonstration scientifique. C'est le cas de la machine électrique de Wim Hurst, qui est un outil finalement de démonstration d'expérience, plus qu'un outil ludique, mais qui peut être utilisé de façon ludique. Les accessoires avec lesquels elle est vendue, les tubes en verre, sont des éléments qui permettent d'en faire une utilisation pour le plaisir, puisqu'on voit bien qu'ils sont colorés, ils sont arabiscotés, c'est pour faire passer le courant électrique, le mettre en valeur de façon spectaculaire. Mais on est presque à la limite de l'expérience scientifique spectaculaire, plus vraiment dans le jeu. C'est d'ailleurs un objet qui est quand même assez dangereux à utiliser pour un enfant. Donc on est à la limite vraiment entre les deux. Et finalement, ce qui permet vraiment de comprendre, d'appréhender, est-ce qu'un objet va être un jouet scientifique, va être un objet d'expérience, va être un support pédagogique ou un objet spectaculaire, c'est l'intention à la fois du fabricant et de l'acheteur. L'article de La Nature auquel je faisais référence tout à l'heure le montre bien, presque tout peut être utilisé pour une vocation pédagogique et l'engouement que suscite le jouet scientifique à la fin du 19e finalement fait que beaucoup d'éléments vont être qualifiés comme tels plus par interprétation. Et ce qui permet donc de qualifier cette petite locomotive de jouet scientifique, c'est à la fois certes que c'est une locomotive et que les locomotives vont être un peu l'archétype de ce qu'on va appeler le jouet scientifique à cette époque, mais c'est aussi et surtout les centres d'intérêt de ces fabricants, qui sont la maison Radiguet. Et la maison Radiguet, c'est un fabricant qui va se centrer vraiment sur l'aspect pédagogique, justement, de la production de ces outils. Et finalement, il n'est pas extrêmement évident dans la production de la maison Radiguet qu'ils produisent des jouets. Ils vont produire des objets qui vont être vendus en tant que jouets, mais l'ensemble de leur fonds de commerce est assez éloigné du jouet. Et finalement, il n'est pas certain que ces fameux jouets scientifiques aient toujours été vendus à des enfants. De toute façon, même si c'est des enfants, il s'agit quand même d'enfants âgés, capables de se servir des mécaniques, puisque la locomotive que j'ai montrée tout à l'heure, il est nécessaire d'être en mesure de la démonter et d'en comprendre réellement le fonctionnement pour pouvoir la faire fonctionner. Un enfant de trop jeune âge ne peut que regarder un adulte la lui mettre en fonctionnement. Donc ça, c'est les bâtiments historiques de la maison Radiguet tels qu'ils sont actuellement, donc c'est-à-dire au 13-15 boulevard des Filles du Calvaire et 21 rue de Commune, c'était leur adresse historique. Aujourd'hui, c'est un magasin Rouge et Blé, mais le bâtiment a très peu changé. Enfin, il y a eu des travaux internes dans les années 50, mais extérieurement, ça n'a pas du tout changé depuis l'époque où c'était Radiguet. Alors là, c'est une photographie des dernières années pendant lesquelles la maison Radiguet a occupé les lieux. Dans ces dernières années, ils s'éloignent un peu de leur production d'objets scientifiques, de jouets. Ils sont à la fois des vendeurs de projections, les projections Molteni. Ils se spécialisent dans les rayons X et dans les plaques photographiques. Mais ils gardent encore un certain intérêt pour tous les objets mécaniques, tous les objets techniques qu'ils ont pu produire. Finalement, c'est dans ces premières années du XXe siècle que la maison Radiguet témoigne de la plus grande diversité d'activités, puisqu'ils sont en train d'abandonner la vapeur, mais ils ne l'ont pas encore totalement fait. Ils ont encore des activités liées à l'électricité, et ils ont cet engouement nouveau, enfin, qui se lance, pour les rayons X et pour la photographie. Mais à l'origine, la maison Radiguet, c'est une entreprise donc, qui est fondée par Honoré-Marie Radiguet. En tant qu'opticien, il reprend le magasin d'optique de Louis Chevalier, à Paris, au 13-15 boulevard des Filles du Calvaire. Dès le début, ils sont à cet emplacement. Mais à ce moment-là, Honoré-Marie ne produit que de l'optique. Ils sont déjà assez reconnus. En tant qu'opticien, Honoré Radiguet se dénote comme un très bon fabricant de glace à face parallèle. Donc les glaces à face parallèle, ce sont des objets qui sont très intéressants pour la production d'instruments scientifiques, puisque, étant parallèles, elles ne déforment pas le passage de la lumière. Et en particulier, elles sont nécessaires pour la photographie. Donc ils vont connaître un essor assez important dans les années 1830-1840. En 1832, Radiguet est mis en avant par le bulletin de la Société d'encouragement à l'industrie pour justement cette production de glaces parallèles. Mais dans les années 1840, le papier Talbot prend le dessus de la production photographique et donc progressivement les verres parallèles qu'il proposait sont obsolètes. Ça, c'est quelque chose qui va finalement être un schéma assez récurrent dans l'histoire de la maison Radiguet, c'est-à-dire qu'il fonctionne tellement en lien avec le progrès scientifique et technique de leur époque que parfois ils sont rattrapés par ce progrès et doivent renouveler leur orientation dans d'autres domaines. L'illustration ici, elle était tirée d'un catalogue des années 1900, Radiguet, mais il stipule que les ateliers ont beaucoup grandi depuis et que le magasin s'est étendu. Donc c'est pour ça que j'ai supposé que c'était plutôt une gravure soit de l'époque d'Honoré-Marie, soit un peu postérieure peut-être, mais plus ancienne, parce qu'elle indique bien qu'ils sont opticiens. Et ça, c'est quelque chose qu'ils vont ensuite abandonner, même si optique et petite mécanique sont vraiment les fondements par lesquels ils se lancent. Et c'est aussi probablement par ce biais-là qu'ils s'intéressent pour la première fois aux jouets scientifiques, puisqu'en réalité, les fabricants de jouets scientifiques, pour la plupart, s'initient à ce domaine en fait par le biais de l'optique, puisque les premiers jouets scientifiques qui vont être connus comme tels, ça va être tous les appareils de démonstration du mouvement, kinémascope, tomatrope, donc tout ce qui repose sur des illusions d'optique, des jeux de lumière, des jeux de lentilles, et donc dans lesquels évidemment les opticiens sont des fabricants privilégiés. Mais la maison Radiguet connaît des années un peu difficiles, donc dans les années 1850-1860, et quand Honoré-Antoine Radiguet reprend la maison avec l'aide de son frère Sidley Radiguet qui est un peu intéressant dans ces lieux puisqu'il avait des liens avec la BAI, enfin il était un premier lecteur. Et donc Sidley vient aider son frère donc, jusqu'à son décès a priori, mais les années pendant lesquelles Honoré-Antoine et son frère reprennent progressivement la maison ne sont pas non plus des années de totale déshérence. Le brevet d'invention que j'ai placé derrière le portrait d'Honoré-Marie est un brevet qui finalement date de 1852, donc pour des lentilles cette fois-ci. Donc c'est une maison qui n'a jamais cessé de se renouveler. Et avec Honoré-Antoine, la maison s'oriente vers les jouets, vers la petite mécanique. Les machines à vapeur arrivent au catalogue en 1872. Il est probable que les locomotives, enfin, arrivent au catalogue, arrivent dans les... Ils en produisent dès les années 1872, ils n'ont pas encore de catalogue en 1872. Mais ils arrivent dans leur vitrine plutôt. Les locomotives sont plus difficiles à dater parce qu'au début, ils ne les estampillent pas. Mais c'est dans ces années-là, et ça correspond aussi au moment où Sidley prend son autonomie vis-à-vis de son frère, où la maison délaisse en partie l'optique, et où le fils d'Honoré-Antoine, Arthur Radiguet, commence à travailler avec son père. Donc la maison Radiguet donc, est pas vraiment tournée vers le jouet, mais quand même stipule bien dans son catalogue que les locomotives qu'ils produisent sont des jouets. Elles sont bien catégorisées comme ça, ce qui n'est pas forcément une évidence dans le reste de la production de la maison pour d'autres éléments. À noter quand même que cet exemple plaire là, et donc qui vient du Victoria and Albert Museum, n'est peut-être pas de Radiguet, hein, il se ressemble étonnamment, c'est pour ça que je l'ai sélectionné pour. Mais la maison Radiguet se plaint énormément, en tant que précurseur dans le domaine de la production de jouets scientifiques, des copies et des modèles, donc des modèles surmoulés, des copies de contrefaçon sans leur marque. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont commencer à poser une marque. Mais peut-être ce modèle-ci pourrait quand même être un modèle Radiguet, dans la mesure où, en réalité, la maison Radiguet vend des pièces détachées, vend des appareils, et elle vend tout ça aussi à une maison anglaise, la maison Clyde and Dockyard Model, qui pourrait être directement un simple revendeur en fait de Radiguet, ce qui pourrait expliquer ce modèle. Mais après, les modèles évoluent au fil du temps, ils évoluent aussi en fonction de la taille, ils évoluent en fonction des matériaux. Les locomotives jouets qu'ils proposent sont souvent en fer blanc, ou en tout cas des matériaux souvent moins solides, alors que les modèles plus grands et plus soignés sont tout cuivre ou cuivre et laiton. Donc, c'est aussi un différentiel de qualité sur lequel ils s'appuient, à la fois pour se revendiquer comme meilleur fabricant et aussi pour revendiquer la qualité scientifique de leur matériel par rapport à des gens d'autres entreprises qui produiraient, elles, plutôt des jouets. Donc, la marque qu'ils déposent, Radiguet et Fils, H.A., soit Honoré-Antoine, soit Honoré et Arthur. On peut interpréter le logo comme on veut, d'une certaine façon, et ils vont le conserver jusque dans les années 1900, même une fois que Arthur sera seul. Là, j'ai tiré le logo du bottin commercial. Et dans le bottin commercial, ils apparaissent à plusieurs occurrences, à la fois comme constructeur d'instruments scientifiques, comme constructeur de jouets scientifiques, comme constructeur de matériel de démonstration, comme vendeur de robinets, puisqu'ils vendent aussi les pièces détachées. C'est des occurrences qui montrent un peu la diversité des activités, plus grand-chose à voir avec l'optique. À part le fait qu'ils sont effectivement partis de la production d'instruments scientifiques et qu'ils continuent à produire des instruments scientifiques. Honoré-Antoine meurt en 1887. Il a déjà cédé la direction de la maison à son fils Arthur depuis quelques années. Et ils se sont complètement, à ce moment-là, séparés de l'aspect optique, puisque la partie optique est reprise à Évreux par Ernest Julien, donc le frère d'Arthur. Le troisième frère devenant fabricant de jouets, mais lui des jouets en bois qui n'ont a priori pas grand-chose de scientifique à Montreuil. Honoré Arthur donc reprend cette production de la maison. Lui, il se définira toujours comme constructeur d'appareils pour les sciences. L'aspect qu'il met en avant, c'est pas uniquement le seul aspect de la maison, et c'est un aspect qui correspond aussi à sa personnalité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de fasciné par le progrès scientifique, de fasciné par les découvertes récentes, et de très tourné vers la pédagogie. Il est reconnu, enfin la maison Radiguet, parce que tout ne date pas de l'époque où il est à sa tête, participe aux expositions universelles, y est récompensé, et surtout n'y est pas seulement récompensé en tant que fabricant d'instruments scientifiques, techniques, d'outils. Elle est également récompensée pour ses innovations pédagogiques. Donc ça, c'est un aspect assez intéressant. En 1889 en particulier, Radiguet est célébré pour non pas ce qu'il produit, mais pour le travail que fait sa maison en faveur de la diffusion scientifique et technique. Il faut savoir qu'il est, à son décès, il est reconnu pour ça, puisqu'il est à l'époque officier de l'instruction publique et qu'il semble qu'il était pressenti pour recevoir la Légion d'honneur, donc qui correspond à son investissement dans le domaine de la vulgarisation. Parce que c'est ça qui est assez finalement étonnant avec cette maison et qui permet vraiment de définir les objets qu'ils produisent comme des jouets scientifiques, c'est cet intérêt pour la pédagogie, pour la médiation, pour la vulgarisation, avec une façon presque moderne, très innovante dans leur approche de la question. Donc, sous l'égide d'Arthur Radiguet, les modèles de locomotives qu'ils proposent se diversifient. La maison Radiguet va proposer un modèle réduit de locomotive Crampton qui, cette fois, va devenir beaucoup plus fidèle à l'objet réel. Donc, il reprend même le modèle de la roue de la Crampton qui en fait la spécificité un peu visuelle. Donc, la Crampton, c'est pas une locomotive beaucoup plus récente que la Stephenson par rapport au petit jouet que j'ai présenté, mais t'as pas du tout la même aura. Parce que la locomotive Crampton, elle se veut, au moment où elle est produite, au milieu du 19e siècle, le modèle de locomotive le plus performant, le plus novateur, le plus récent qui soit. Donc il reprend vraiment quelque chose qui est symbolique. Elle est même presque trop symbolique, la Crampton, puisqu'elle est conçue pour des records de vitesse qui ne sont pas forcément réalisables sur le réseau de l'époque. C'est une locomotive qui reste en fonctionnement quand même jusqu'en 1892. Enfin, l'exemplaire que j'ai photographié là, celui de la Cité du Train, a fonctionné jusqu'en 1892. Donc c'est quand même contemporain de l'époque où Radiguet fait son modèle, ce qui n'était pas le cas avant. Et l'ensemble du catalogue, comme ça, retranscrit cet intérêt pour la pédagogie, pour la diffusion scientifique. Donc, non seulement il a des petites pompes, des machines-outils, des petits outils qui servent soit à fabriquer, soit à démontrer. On trouve aussi des machines à vapeur de démonstration dans le catalogue de Radiguet, donc cette fois, qui s'inscrit plutôt dans la catégorie jouets scientifiques, puisque c'est bien pour un usage privé personnel. À noter quand même que la maison Radiguet propose également de construire des plans que leur enverraient leurs clients. Donc dans ces catalogues Radiguet, ce sont des objets qui sont mis en place par la maison à partir de 1887, donc à partir de la mort d'Honoré Antoine. Au début, ils ont un catalogue unique et très vite, ils vont diviser leur catalogue en différents registres. Donc il va y avoir la vapeur, l'électrique, la photographie, les rayons X, enfin, en fonction des thèmes qu'ils vont progressivement mettre au catalogue. Donc là, ce sont deux catalogues de 1901, mais celui-ci, cet extrait-là, lui, est très intéressant vis-à-vis de cette vocation pédagogique de l'entreprise, puisque ce sont des tableaux, des petits mécanismes, qui sont conçus à destination de l'enseignement. Donc c'est vraiment conçu pour être utilisé dans des établissements d'enseignement, donc secondaire et technique. Et ce sont des miniatures de machines, mais uniquement conçu pour démontrer un phénomène mécanique, un phénomène physique, un phénomène technique. Donc là, ce ne sont plus des jouets, ce sont vraiment des supports d'enseignement. Ces miniatures, finalement, reprennent le modèle des tableaux animés que pouvait vendre une maison, disons, jumelle de la maison Radiguet, qui était la maison Molteni. Donc la maison Molteni, elle s'est mise à vendre des petits mécanismes. C'était pareil, de la même façon que Radiguet, c'était des opticiens au début du 19e siècle, dans la première moitié du 19e siècle, et à partir des années 1860, il se lance dans la mécanique plutôt. Mais il propose d'ailleurs également des petites locomotives, mais eux, ils ne les appellent pas des locomotives jouets, ils les rangent plutôt du côté du modélisme, parce que c'est bien quelque chose aussi qu'il faut voir avec ces locomotives, c'est qu'on est certes dans le jouet, mais on est aussi beaucoup, finalement, déjà dans une forme de modélisme plutôt pour adultes, pour une retranscription de la fascination davantage pour le domaine ferroviaire plus que pour le fonctionnement lui-même de l'appareil. Et donc cette maison Molteni, elle produisait des tableaux mécaniques qui, eux, étaient ludiques. Les tableaux mécaniques mettaient en fonctionnement des figures, des peintures, des scènes narratives, quoi. Mais la maison Molteni avait aussi une production un peu plus scientifique qui les ont délaissés plus vite à destination de la photographie et de la projection, rebaptisée projection Molteni. Cette lanterne magique gravure, le dessin est issu d'une publication d'Alfred Marie Molteni qui était un guide pratique pour utiliser les objets qu'il vendait. La maison Molteni va s'orienter très vite vers la médiation, vers la vulgarisation par le biais de l'édition. Radiguet, enfin, longtemps ne va pas faire. Donc Radiguet va rester beaucoup sur la production de petits objets, de machines, de mécanismes qui ont cette même vulgarisation. Donc la maison Radiguet n'est passée à la postérité en grande partie que pour ses bateaux, qui sont un peu remarqués parmi les collectionneurs de jouets anciens. Mais finalement, les bateaux étaient une catégorie vraiment infime de leur production. Les lanternes magiques étaient beaucoup plus fréquentes dans leur catalogue, et les locomotives étaient manifestement, elles aussi, plus importantes, même si, comme je le disais, vraiment la production Radiguet n'est pas centrée sur les aspects qui sont des jouets. Mais elle est plutôt centrée sur cet aspect pédagogique de vulgarisation. Alors, la maison Radiguet connaît un tournant en 1899, quand Arthur Radiguet s'associe à son gendre, Georges Massiot, avec Georges Massiot, qui a une formation d'ingénieur, alors que Radiguet est entièrement autodidacte, Arthur, et son père aussi d'ailleurs avant. Avec Georges Massiot, ils vont tous les deux racheter le fonds d'Alfred Marie Molteni, une maison qui avait déjà connu une certaine évolution, davantage l'édition, vers la photographie et vers la projection photographique. Ils vendaient leurs images. Ils avaient aussi un partenariat avec le journal La Nature. Donc c'est vraiment un ensemble de réseaux de sociabilité finalement qui se centrent autour de cette idée de diffusion de la connaissance, de la modernité, puisque la maison Molteni avait un accord, un contrat avec le journal La Nature pour assurer la diffusion des images qui étaient publiées dans La Nature au sein de leur catalogue d'images. Ils vendaient en fait un fonds photographique, un fonds de photographie et gravure qui pouvait ensuite être utilisé pour des conférences. Et ils fournissaient des projectionnistes pour les mêmes conférences. Donc la maison Radiguet va reprendre tout ça. Elle va ajouter ça à son aspect plus original de médiation vis-à-vis plus scolaire, plus ludique. Et tout ça va s'accumuler en fait comme domaine d'intérêt. La locomotive Coupe-Vent, qui est une vraie locomotive de 1900, ils suivent leur époque, donc une locomotive de la compagnie du PLM, Marseille-Lyon-Marseille. Elle est une production toujours de la maison Radiguet, mais c'est plus un jouet. On est complètement sorti de la catégorie jouet. Quand Radiguet et Massiot produisent ça, c'est à destination des écoles d'ingénieurs, des élèves ingénieurs. Et ils espèrent d'ailleurs que leur modèle sera acheté par les établissements. L'idée est en fait de produire un livret de montage pour produire un modèle réduit fonctionnel de la locomotive du PLM. Donc c'est une locomotive actuelle et un modèle réduit qui se veut le plus fidèle possible. Alors là encore, il y a encore des restrictions. Radiguet précise toujours que c'est pas possible d'avoir exactement les dimensions exactes de la PLM dans son montage, mais le résultat est quand même très similaire. Ils fournissent donc toutes les dimensions des objets, et évidemment, il va de soi que pour obtenir les tubes aux bonnes dimensions et tout ce qui est associé, il faut s'adresser à la maison Radiguet pour avoir les pièces. Chose intéressante, ils assuraient donc une vente par correspondance, et ils assuraient également un retour sur les appareils qu'ils avaient vendus, à condition toutefois, ils se couvraient un peu, que les acheteurs n'aient pas tenté eux-mêmes une réparation avant sur l'appareil. Donc soit ils envoyaient des conseils, soit carrément ils pouvaient reprendre les pièces et les adapter. Dans les années 1900, ils proposent de reprendre des locomotives qu'ils auraient vendues en locomotives de plancher. En 1880, quand ils vendent des locomotives de plancher, c'est très novateur, ils sont presque les premiers, et il y en a encore très peu. Alors qu'en 1900, les locomotives miniatures, c'est dans tous les catalogues de jouets, y compris des locomotives qui ont des mécaniques de fonctionnement. Surtout, elles sont de plus en plus associées avec des systèmes de rails. Et de plus en plus, on va avoir une normalisation du modèle du jouet ferroviaire. Et donc, Radiguet propose en fait de vendre désormais des rails pour faire fonctionner ces locomotives et pour pouvoir les faire fonctionner en circuit, donc avec des rails courts. Les locomotives qu'il a vendues antérieurement ne sont pas capables de faire ça. La locomotive fonctionne davantage pour circuler droite. Et donc, il propose de reprendre les machines et d'adapter les essieux. C'est une évolution, à la fois ils suivent leur époque, et ils suivent tellement leur époque que Radiguet et Massiot, mais surtout Radiguet, Arthur Radiguet, vont être fascinés par le rayon X. Donc Arthur Radiguet dépose en 1896 ce brevet pour une lampe qui doit censée produire des rayons X. Alors je ne me demandais pas de vous expliquer comment ça fonctionne, je n'ai aucune idée, mais ce qui est intéressant, c'est surtout de voir à quel point il suit de près le progrès scientifique, puisque le développement des rayons X, c'est 1895, les premières expériences de Röntgen. Ce brevet en fin de l'année 1896, ce qui est tout nouveau. Il expérimente d'ailleurs tellement avec les rayons X qu'il en meurt en 1905, qu'il est quand même relativement jeune, il est très jeune. C'est une mort très inattendue, on le voit dans les comptes de la maison. Ils ont alors un lourd emprunt auprès de Molteni, dont ils viennent de racheter le fonds 4 ans plus tôt. Et pour mettre à plat ses affaires, Radiguet dissout son association avec son gendre pour lui éviter d'avoir à assumer les dettes et pouvoir conserver l'activité après son décès. Donc cette signature ici, c'est la signature de l'inventaire qu'ils font de leur fonds le 15 novembre 1905, donc quelques semaines avant sa mort, pour établir l'état des lieux au moment de la dissolution. Là, il semble qu'il se soit plus tourné vers le domaine scientifique. Et Arthur Radiguet était certainement un inventeur davantage tourné de la recherche scientifique que uniquement sa diffusion. Mais il faut bien voir que même dans le domaine des rayons X complexes et tout nouveau, Radiguet va vouloir faire de la médiation et de la vulgarisation, puisqu'il va proposer à l'Exposition universelle de 1900 une mallette pour faire de démonstration des rayons X, pour faire de la radiographie aux enfants. Une mallette qui va donc assez rapidement retirer du catalogue devant la dangerosité constatée des rayons X. Mais en 1900, il voit ça comme un objet qu'il faut mettre à la portée de tout le monde. Au-delà des expériences qu'il a faites sur lui-même et qui l'ont tué, il installe dans son magasin un cabinet de radiographie qui est ouvert en permanence, aux mêmes horaires que le magasin, et dans lequel on peut venir se faire radiographer. Et il va d'ailleurs léguer transmettre ses radiographies et ses photographies médicales à l'école de médecine, il me semble, parce qu'il estime qu'il a constitué un fonds d'une véritable valeur scientifique et médicale. Donc, comme je le disais, sa mort est soudaine, liée à ses expérimentations pour lesquelles il est célébré. Il est reconnu comme quelqu'un qui a vraiment innové dans le domaine, et à une petite échelle, puisque déjà il est mort très tôt, et ensuite il était quand même fabricant à la base d'instruments scientifiques. Mais ce décès perturbe beaucoup les activités de la maison, et Georges Massiot, donc, qui reprend les activités de son beau-père, va finalement davantage orienter leurs activités vers la photographie. Donc, ils s'appuient sur le fonds Molteni qu'ils ont repris, ils s'appuient sur le développement du cinéma. Il faut voir que Radiguet et Massiot, Georges Massiot va garder le nom Radiguet et Massiot au moins jusqu'en 1909. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il abandonne les locaux, la photo que j'ai montrée précédemment. Au moment où ils avaient racheté le fonds Molteni, ils avaient également loué en fait les ateliers du 44 rue du Château d'Eau, qui étaient les ateliers d'Alfred Marie Molteni, qui partait en retraite. Georges Massiot, certainement en partie à cause des dettes et du décès de son associé, se recentre uniquement sur le 44 rue du Château d'Eau. Ce bâtiment du 44 rue du Château d'Eau, il est relié en 1899, quand ils prennent le bail. Il est stipulé, par exemple, que ce bâtiment, il est relié non seulement à l'eau courante, au gaz, mais à l'électricité. Ce, depuis 1885. Donc ça montre aussi qu'ils étaient intéressés par le progrès et la modernité dans tous les aspects vraiment de leur existence. C'est cet atelier qu'ils ont repris au 44 rue du Château d'Eau, c'est davantage un atelier de photographie, et c'est là-dessus qu'ils vont se recentrer. Donc ils vont vendre un temps les plaques photographiques de la collection Molteni. Il va maintenir brièvement l'activité de projectionniste qu'avait Molteni. Ça s'interrompt aussi parce que tout simplement, ils sont rattrapés par le progrès des moyens de reproduction et des moyens techniques de diffusion des images. Donc le fonds photographique Molteni perd de son intérêt. Ils vont vendre des cinématographes. Les appareils Radiguet et Massiot, en 1928, sont encore les appareils recommandés aux communes qui voudraient se doter d'un cinématographe. Ils font partie des constructeurs agréés. Ils vont aussi s'intéresser beaucoup à la radiographie. Georges Massiot va proposer le modèle des voiturettes de radiographie qui vont être utilisées pendant la Première Guerre mondiale. Et il va en conduire une. Cette évolution de la maison, qui donc est ensuite reprise par Philips dans les années 30, et englobée dans le groupe Philips, cette évolution, donc, elle est liée à la fois à des logiques commerciales et à une évolution du produit scientifique, elle est aussi liée à une évolution de la notion de jouet. C'est-à-dire qu'on a à la fois cet enthousiasme pour l'innovation réduit, en particulier après la Première Guerre mondiale. Enfin, la Première Guerre mondiale est un élément déclencheur dans cette réduction de l'enthousiasme pour la modernité. Mais déjà avant la Première Guerre mondiale, il y a aussi l'effet d'une standardisation de la notion de jouet, d'une diffusion à beaucoup plus grande échelle des modèles. Donc ce catalogue du paradis des enfants, le paradis des enfants, c'est une émanation des grands magasins du monde. C'est vraiment, a priori, pour une diffusion plutôt grand public. Il se veut un catalogue de jouets scientifiques. Il affirme qu'il vend des jouets scientifiques, et il vend effectivement des jouets scientifiques, enfin il présente effectivement des jouets scientifiques, donc c'est surtout des locomotives, c'est-à-dire il y a toujours quelques machines à vapeur à la fin, il y a quelques bateaux, mais ils se sont vraiment recentrés sur la locomotive et le train jouet. Donc des locomotives à vapeur imitées, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent avec des réchauds à alcool, et des lampes à alcool, ce qui est un système nouveau par rapport à ce que Radiguet faisait. Ils ont des locomotives mécaniques, donc ça c'est le système qui était également utilisé pour les locomotives, enfin les trains en fer blanc, et des systèmes à ressort, des systèmes d'horlogerie qui se remontaient, qui permettaient de faire fonctionner. Mais aussi, ils commencent à vendre, donc là on est en 1920, des trains électriques. Donc là, on a dépassé le cadre du... Enfin, on peut toujours utiliser un train électrique pour évoquer à un enfant les fonctionnalités du chemin de fer, mais c'est un jouet qui va se diffuser à beaucoup plus grande échelle. Et en plus, c'est un jouet qui va se diffuser en grande partie par le biais de marques allemandes. Dans le catalogue du Paradis des Enfants, quasiment tous les modèles sont de marque Märklin. Les marques françaises ne vont s'intéresser aux trains électriques qu'après la Première Guerre mondiale, plutôt après la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment à ce moment-là que ça se lance, à grande échelle. Il y a un phénomène de banalisation un peu du jouet complexe, technique, qui finalement perd de son originalité pédagogique du matériel Radiguet. Il faut bien voir aussi qu'il y a une critique féroce à la fin du 19e aussi de ces jouets scientifiques complexes, pas généralisés bien sûr, mais qui va remettre en question l'intérêt pour les enfants d'avoir un jouet aussi complexe, un jouet finalement qu'on ne peut pas forcément manipuler, qui peut être dangereux dans certains cas. Une idée aussi qu'il faut remettre en question, l'idée que tout doit être support d'apprentissage pour l'enfant. La maison Radiguet, finalement, se caractérise finalement par à la fois une inscription dans son époque, à la fois une certaine façon aussi d'être en avance sur cette époque, puisque tout ce qu'ils veulent mettre en avant est toujours la pointe du progrès scientifique. Voilà, si vous avez des questions.
Merci beaucoup. Merci.
C'est pour ça que j'avais remis la généalogie à la fin. C'était parce que. Pourquoi je marchais dans ça ? Voilà. Ça peut être intéressant de voir que Radiguet, Sidley était.
Sidley, Radiguet, et opticien et le lecteur 156, là. Oui, pardon, c'est le dernier, 158. Et tu veux que je raconte
mais celui là
oui.
Oui. Remontre le
oui,
ton,
bah, tu flèche, peux là.
Oui, c'est celui-ci
lequel c'est.
C'est donc c'est le frère
c'est celui-là.
Mmh. Enfin, je vais rallumer le diaporama.
C'est pas celui qui a fait les jouets, c'est alors, dont Valentine a moins parlé, qui travaillait avec son frère au début et après il s'en va.
Alors, je vais te demander de pour que je puisse d'accord. Tu pourrais simplement nous dire que l'un des frères Radiguet, s'il
donc,
te plaît.
Donc, l'un des frères Radiguet, Sidley, est inscrit à la bibliothèque dans le premier gros paquet d'inscrits du 1er juillet 1861. Et quand on cherche un peu, on s'aperçoit que Sidley Radiguet a été témoin, le premier bibliothécaire de la bibliothèque qui s'appelait Honoré, qui s'appelait Plomb, qui a eu des tas de métiers, mais qui a été opticien. Quand il se marie, Sidley est son témoin. Et quand il a son fils aîné, Sidley est son témoin. Et quand Sidley a son, je crois, son deuxième enfant, le premier, je ne sais plus, Plomb est le témoin. Donc, il y a un lien familial et amical, et peut-être professionnel, puisque Plomb est à un moment opticien. Et d'autre part, Plomb a des ennuis après la commune, il s'est trouvé embarqué dans une histoire un peu louche. Et Honoré Radiguet, donc celui dont on nous a le plus parlé, vient témoigner. Ils sont quatre de la bibliothèque à venir témoigner en faveur de Plomb. Il y a Henri Aran qui deviendra président de la bibliothèque. Et il y a un certain Laboulé qui est président de la bibliothèque du 5e, Paul Delamarche qui va créer la bibliothèque du 14e, et Honoré Radiguet. Et malheureusement, on a la liste des pièces, mais dans le dossier qui est conservé aux archives de Vincennes, il ne reste que dans le dossier que le jugement. Toutes les pièces ont été jetées, donc je ne peux pas vous dire ce que Honoré Radiguet racontait sur Plomb. Et là, on est donc...
L'OMB.
On est en 1873, à peu près.
Et ce qui correspond finalement à la mort de Sidley. Mais Sidley est mort en 1873, donc
c'est
ça pourrait expliquer...
C'est pour ça que c'est son frère qui vient parler. Il faudrait que je regarde les dates, je vais regarder plus précisément, mais je suis sûre que c'est Honoré, le prénom Honoré qui est noté sur les pièces du procès.
Après, Sidley et Honoré ont été relativement proches, puisque... au moins jusque dans les années 1865, Sidley est directement associé à son frère au fil du calvaire. Et c'est seulement après qu'il prend son autonomie en tant qu'opticien. Donc c'est pas... S'ils avaient des relations professionnelles, Honoré pouvait très bien en avoir également. Aussi. Après, de toute façon, tout ça correspond aussi à un milieu intellectuel et un milieu... dans lequel il pouvait forcément, enfin, il pouvait avoir des relations.
Quand vous avez proposé de faire cette conférence ici, sur ce sujet-là, est-ce que vous saviez qu'il y avait un lien entre Radiguet et notre bibliothèque ou pas encore ?
Oui, c'est quand j'ai fait ce travail sur Radiguet, c'était pendant le confinement, donc une partie des données manquait, et donc j'ai cherché un peu dans tous les domaines possibles, et c'est comme ça que j'avais été tombée sur ce lien qui, à l'époque, ne m'intéressait pas beaucoup, puisque ça ne me disait pas grand-chose sur la maison en elle-même et ce qu'il produisait, Mais oui, je le savais quand...
Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils n'ont jamais donné cours du soir. Ils n'ont jamais été justement dans les associations du quartier de la philotechnique et les...
Mais alors, est-ce que, justement, quand on parle de rayon X comme ça, mais à l'époque, les rayons X, est-ce qu'ils avaient des relations avec des scientifiques?
Ben, c'est quelque chose qui...
Parce qu'il était ingénieur, Massiot, tu disais.
Massiot était ingénieur, Massiot a une vraie formation d'ingénieur. Aucun des Radiguet ne semble avoir eu une quelconque formation formelle.
Parce que quand même, il fallait quelqu'un là.
Mais alors, après, ils avaient des relations avec des scientifiques continues, c'est-à-dire que c'était surtout par le biais de Molteni qu'ils se sont lancés là-dedans, mais ils l'ont certainement fait également. Enfin, ils avaient eux-mêmes leur propre point de contact. Molteni, par exemple, avait un partenariat avec différentes organisations scientifiques puisqu'ils assuraient les conférences. Et ils éditaient ensuite le texte, ils éditaient les images, ils envoyaient des projectionnistes sur place. Donc, ils avaient un partenariat particulièrement solide avec la Société de géographie, Molteni. Radiguet, lui, était donc plus orienté vers l'aspect technique, mais on sait qu'à un moment donné, il se lance également un peu dans l'édition. Il y a quelques traités techniques qui sont édités par la maison Radiguet. Donc, il avait très certainement des liens avec des gens qui passaient au moins par lui pour éditer, pour produire leurs appareils. Et rien de tout ça n'a laissé de traces, puisqu'ils n'ont pas d'archives commerciales. Pour ce qui est des rayons X, comme je le disais, Radiguet a été beaucoup remarqué. Enfin, le décès de Radiguet a été beaucoup remarqué dans les cercles savants qui s'intéressaient aux rayons X. Donc, il était au moins membre de sociétés savantes sur la question, mais jamais il est mentionné qu'il a eu des relations professionnelles avec un spécialiste du sujet. Ou qu'il avait lui-même une formation. Alors, une formation sur les rayons X, c'était pas possible puisque c'est trop nouveau. Mais même dans les domaines de la mécanique ou de l'électricité, c'est jamais mentionné. Donc, il semble qu'il soit vraiment formé simplement par la rencontre avec ces gens.
Parce qu'effectivement, il y avait peut-être le... Je pense le Conservatoire des arts et métiers ou bien l'École supérieure de physique et de chimie, justement, où travaillait au début Pierre et Marie Curie. Si ça se trouve, ils avaient peut-être des rapports avec des gens comme ça, mais on va peut-être voir. Mm-hmm. Évidemment, là, je connais plus beaucoup de monde à l'école. J'ai travaillé dans cette école.
Et puisqu'il a conduit une petite curie.
Georges Massiot, oui.
Massiot. Et bien, comment il avait été, parce que c'est à l'armée qu'on lui propose.
Georges Massiot, il aurait fourni surtout les mécanismes des voitures curie, enfin les appareils de radiographie pour les voitures curie. Quand ils font cela, ils s'appuient très probablement simplement sur son réseau de connaissances scientifiques, puisque je ne suis pas sûre qu'il y avait beaucoup de fabricants d'instruments qui produisaient. Autant d'un point de vue mécanique, d'un point de vue électrique, ils étaient loin d'être les seuls, autant sur la radiographie, au moment où Radiguet se lance dans le domaine, assurément ils sont les seuls. En 1914, je ne sais pas combien ils sont, mais voilà, donc c'est peut-être tout simplement une relation, je dirais, de symbiose professionnelle avec des savants qui avaient besoin de techniciens pour leur produire les outils qu'ils utilisaient pour leurs expériences et qui, de fait, étaient obligés de communiquer enseignaient. La façon dont Radiguet acquiert ses connaissances sur la question n'est pas claire. Comme je le disais tout à l'heure aussi, il était quand même reconnu pour son travail pédagogique. Donc à la fois aux expositions universelles, par cette distinction d'officier de l'instruction publique, qui n'est pas banale pour un fabricant. C'est a priori c'est plutôt une distinction normalement qui se tournait vers le domaine de l'enseignement. Donc normalement c'était une distinction qui était...
il est officier de l'instruction publique, ils sont très nombreux à avoir été officiers, surtout tous ceux qui donnaient des cours à la philotechnique et à la polytechnique.
Normalement c'est pour des gens qui donnent des cours. A priori Radiguet n'a jamais fait ça.
Ou qui avait un intérêt pour la, qui œuvrait pour la pédagogie.
Voilà, et ça par contre il a fait, il a œuvré pour la pédagogie. Il n'est pas certain, ça, c'est quelque chose que, sur lequel j'arrive pas à savoir, que j'arrive pas à savoir si la maison Radiguet a fait ça. Peut-être pas, mais à un moment donné, il y a des maisons du type de celle de Radiguet et Bertoni qui produisent des films pédagogiques qui vont être ensuite diffusés dans les écoles, donc qui sont des commandes du ministère de l'Instruction publique, et qui vont qui, sur des thèmes précis pour être présentés. C'est l'existence de commandes comme ça pourrait expliquer aussi pourquoi il a été sollicité pour les voitures de radiographie pendant la Première Guerre mondiale, puisque c'est des liens déjà officiels. Mais dans ce cas précis, je ne sais pas s'il le faisait pour la photographie. Le cinéma, ce n'est pas quelque chose que j'ai retrouvé.
J'ai quand même des choses à dire à propos de la dangerosité. Donc, j'ai eu la chance. Mon père travaillait chez Renault à Billancourt et il faisait un Noël absolument fantastique, je passe les détails, mais on avait des jouets. Et tous les enfants, on allait au Veldiv, au Vélodrome d'hiver, c'était un spectacle absolument formidable, et on avait des jouets. Et moi j'ai eu une machine à vapeur, enfin plus petite que celle-là, mais elle fonctionnait très très bien. Alors, moi j'étais en cinquième, donc j'étais tout le monde, c'était en 53-54, je ne sais plus exactement, et donc j'ai eu cette machine à vapeur. Alors, évidemment, c'est mon père qui au début a installé la chose, et le système Biel-Manivelle, alors là, j'en avais vaguement entendu parler en leçon de chose, ça s'appelait les leçons de chose à l'époque. Et donc il y avait une lampe à alcool, et un jour je l'ai fait fonctionner tout seul, la machine, et j'ai dû approcher un peu trop près l'allumette, et il y a eu une explosion, c'est-à-dire que la vapeur qui était dans la bouteille, qui était une bouteille d'alcool, a explosé, je me suis brûlé, je crois que j'ai eu des cheveux tout le monde. Et bon, j'arrête là-dessus, donc c'était dangereux. Et un jour, le professeur de sciences, j'étais dans un cours complémentaire, comme on dit à l'époque, parle de la machine à vapeur. Je lui dis, moi j'en ai une machine. Alors il demande, est-ce que tu peux l'amener? Alors j'amène ma machine à vapeur. Et il était très sévère, ce gars-là. Bon, il installe la machine à vapeur, il met la lampe, mais et puis il fait chauffer, et puis ça marche pas. Et moi, évidemment, j'étais un petit peu, j'étais jeune déjà. Il n'avait pas mis d'eau, donc tout a chauffé et toutes les soudures qui étaient des soudures à l'étain. Et ma machine était foutue. Alors j'avais envie de lui donner une mauvaise note. Mais oui, enfin j'en étais malade. Moi. J'en suis toujours malade. Non, parce que j'aurais bien aimé terminer cette machine.
J'en ai encore eu, moi. Mon mari en avait
une. Il y en a une là.
Elle n'a pas cette allure-là, celle que j'ai. Elle est plus petite, je crois. Elle est en haut.
Moi aussi, elle était plus petite que ça.
Oui, je crois qu'elle était plus petite. Elle était moins compliquée que celle-ci.
Mais c'est incroyable. Recevoir un jouet de cette qualité-là.
Comme disait, c'était un jouet pour gosses de riches.
Oui,
les entreprises.
Mon père, c'était un ouvrier chez Renault. Et on avait des jouets de gosses de riches. Oui, complètement. Vous voyez, 50, je dirais 54, 53.
Là, c'est ce que met le catalogue en 1920, le dernier catalogue. Il se précise bien que, attention, ils ont mesuré le volume du réservoir à alcool par rapport au volume de la chaudière pour limiter les risques.
Et alors, pour continuer sur la dangerosité, une des dernières photos où il y a une locomotive électrique 110 à 250 volts. Alors, est-ce que c'est un argument publicitaire? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que qu'il l'alimente
directement.
Oui, il y avait du 110 en France, mais pas en Allemagne. Or, c'est des modèles allemands.
Ah oui.
Voilà.
Il est très possible que le transport soit une adaptation française.
Il n'y a pas de transformateur.
Il me semble là-bas.
Non,
là-bas.